Donc, eh bien, nous reprenons le cours de nos conférences. Après avoir vu dans notre conférence introductive, je dirais, un petit peu ce qui constitue le cœur de la vie chrétienne, l'amour, vu d'une façon un peu théorique, nous allons maintenant entrer dans une phase plus pratique. Nous allons voir concrètement comment cet amour est vécu. Donc, ça vous donnera des pistes. Alors, je vais certainement enfoncer des portes ouvertes, mais voilà, c'est une façon de nous rappeler cette façon que nous avons de vivre très concrètement cet amour, comment aimer en famille. Alors pour cela, pour savoir comment aimer, il est toujours intéressant de voir ce que nous faisons pour les choses que nous aimons, les activités que nous aimons. Je connaissais une personne qui était mordue de golf. C'est une passion comme une autre. Et alors, ce qui était assez frappant, c'était de voir, je dirais, la mobilisation de cette personne pour s'adonner à son activité. Elle pensait, je dirais, H24 à cette activité. Elle était abonnée à une revue spécialisée. Tous les matins, avant d'aller au travail, bon, c'était dans un pays un petit peu exotique, il allait faire son practice. Donc, il se levait très tôt, motivé, parce que c'est jamais très drôle de se lever très tôt. Mais voilà, il travaille son swing, etc. etc. Donc, ça nous montre cela, que lorsque nous aimons, eh bien, nous canalisons nos énergies pour faire les choses. Il y a une chose, moi, qui m'a toujours frappé, c'est les gens qui font de la course à pied. Je trouve que c'est horrible de courir, mais vraiment horrible. Je suis absolument pas un marcheur ni un coureur. Et je me dis, mais bon, alors il y a des gens qui font ça plus facilement, mais ils en veulent, quoi. Qu'est-ce qu'ils aiment? Ben, c'est un bien qu'ils cherchent, c'est la santé physique, c'est l'exercice, etc. Eh bien, nous devons devenir dans notre mariage, nous devons devenir en quelque sorte des coureurs de fond, des passionnés du bien du mariage. Alors, on va voir bien comment nous allons pouvoir vivre cet amour intensément. D'abord, eh bien, on va s'employer à bien connaître notre conjoint, notre époux, qui est notre premier prochain. Et pour l'aimer, eh bien, on va s'intéresser évidemment à ses goûts. Voilà, qu'est-ce qu'il aime, c'est tout bête, mais des choses comme qu'est-ce qu'il aime bien manger, ou qu'est-ce qu'elle aime bien manger, pour tâcher de les satisfaire dans la mesure du besoin. On va, quelles sont les activités qui lui plaisent, pour les faire autant que possible. Les vacances, rêve d'un voyage en Italie, eh bien on va partir en Italie. Voilà, des choses toutes bêtes comme ça, je dirais, exercer concrètement l'amour. Vous connaissez tous certainement ce conseiller conjugal Gary Chapman, qui identifie 5 grands langages de l'amour, je vous les rappelle pour mémoire. Il a remarqué, donc c'est un protestant, mais qui est très pratico-pratique, donc c'est vraiment intéressant en général ces livres pour, je dirais, vivre très concrètement l'amour. Donc premier langage d'amour, donc il constate, et c'est tout à fait vrai, que chaque personne a un réservoir affectif qui va être satisfait, qui va être comblé dans la mesure où l'on exerce certains activités particulières à lesquelles la personne est particulièrement sensible. Donc il a identifié 5 grands champs, 5 grands types de choses, d'actions qui vont combler ce réservoir affectif. Donc d'abord les paroles valorisantes, savoir, eh bien, féliciter de façon opportune, reconnaître le bien, c'est très précieux effectivement, et certaines personnes ils sont très sensibles. Prendre des temps de qualité aussi, c'est-à-dire, eh bien, le temps de parler. On vit souvent un petit peu un rythme trépidant, on oublie, ou on perd de vue, ou alors on est, là on en parlera dans les dangers, captés par d'autres activités parasites qui peuvent, eh bien, nous détourner de ces temps de qualité auxquels certaines personnes sont très sensibles. Savoir aussi faire des petits cadeaux. Il y a des gens qui sont enthousiasmés par des petits cadeaux opportuns, donc savoir donner la petite chose, c'est souvent plus l'intention qui compte que l'objet lui-même. Voilà, il y a des gens aussi très sensibles aux services que l'on rend, donc savoir rendre des services opportuns. Et puis d'autres qui sont très physiques, ils ont besoin de se sentir, pris, touchés, etc. Donc, eh bien, pour aimer, il va s'agir de connaître ce langage d'amour de son conjoint pour pouvoir lui parler, le combler en quelque sorte. Donc voilà, on cherche à savoir ce qui lui plaît pour le faire. Par exemple, si vous avez un conjoint qui est très sensible à l'ordre, ça arrive, il y a des gens comme ça, des tempéraments pour qui, s'il y a une chose qui dépasse, ils se sentent mal. Bon, eh bien, si vous avez un tempérament un peu plus relâché, voilà, où le désordre ne vous gêne pas, eh bien, par amour pour votre prochain, vous allez bien ranger les choses quand vous rentrez, etc. Et des gens aussi très, très sensibles à la propreté, ce qui est tout à fait bien, hein, et d'autres qui le sont moins. Eh bien, on va du coup faire attention. Je connais une personne qui était exaspérée parce que son conjoint laissait toujours le tube de dentifrice ouvert sur le rebord du lavabo. C'est un détail, vous voyez, mais si on sait que ça affecte le prochain, notre conjoint, eh bien, on va faire ce petit effort, hein, fermer les portes. Il y a des gens, vous savez, qui aiment bien avoir les portes ouvertes, d'autres les portes fermées, enfin voilà. Donc, le tout, c'est de s'adapter, de comprendre, de saisir la logique, je dirais, de son conjoint pour pouvoir, autant que possible, bien faire ce qui est bien. Évidemment, éviter ce qui lui déplaît, hein, c'est le corrélatif de ce que je viens de dire. Donc voilà, il y a des gens par exemple qui ne supportent pas d'être en retard, hein, et puis il y a des gens qui n'arrivent pas à être à l'heure. Alors si vous avez épousé quelqu'un, si vous êtes un petit peu en opposition de face sur ces points là forcément ça donne lieu à des frictions. Eh bien, celui qui a tendance à manquer un peu d'organisation, d'anticipation, fait un effort pour pouvoir davantage arriver à l'heure et ne pas mettre tout le monde en retard. Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas l'imprévu. Voilà. Donc tout ça, vous voyez, c'est des choses très concrètes qui sont très simples à faire, et parfois, alors, mais des choses bêtes. Hein. La vie de cognitienne est faite de choses tout à fait bêtes. Enfin, un autre exemple qu'on m'avait cité, c'est une personne, le mari, quand il commençait à pleuvoir, ne mettait pas les essuie-glaces, parce que ça ne gênait pas qu'il y ait un peu de goutte sur le... Mais sa femme, elle ne supportait pas, parce qu'elle avait l'impression qu'on n'y voyait plus rien, qu'on allait avoir un accident. Donc, alors, lui a expliqué, mais non, mais t'inquiète pas, chérie, je vois très bien, je maîtrise la situation. Bon. Et donc c'est tout bête. Alors vous voyez, plutôt que de faire tout un discours pour expliquer qu'il n'y a pas de problème, vous connaissez bien, bah, vous mettez les essuie-glaces, ça ne coûte rien de mettre les essuie-glaces, hein, un peu d'électricité, bon, c'est le générateur qui tourne, il n'y a pas de problème. Hein. Donc vous voyez, c'est des trucs, ça met de l'huile dans la mécanique. C'est des choses toutes simples comme ça, on sait ce qui fait plaisir à l'autre et on le fait. Hein, même si en fait on a des bonnes raisons de ne pas le faire, parce que voilà. Hein, bon, alors il y a des limites aussi, il y a certaines choses qui sont objectivement à ne pas faire. Donc là, il faut savoir dire, chérie, j'ai beau avoir la meilleure volonté du monde. Voilà, là, si tu me demandes de rouler à 160 alors que c'est limité parce qu'on est bon, non, on ne va pas faire. Hein, il y a des choses qui sont, qui sont pas à faire, mais dans la mesure où c'est possible, où c'est réalisable, il faut le faire. Hein, vraiment, vous voyez, cette bienveillance, cette recherche du bien et le faire, c'est quand vous faites cela, même si vous avez, surtout si vous n'avez pas envie de le faire, eh bien c'est là vraiment que vous marquez, je dirais, des points de façon très intense sur le compteur de l'amour. Hein. Vous avez, c'est un exemple un peu trivial que je prends, mais vous savez, c'est ces jeux de bar qui s'appellent les flippers. Je ne sais pas si vous voyez, quand j'étais jeune, ça existait, je ne sais plus si ça existe maintenant, c'est tout électronique. Hein. Mais vous savez, quand vous êtes touché certaines zones, le compteur explosait, ça avait monté. Bon, ben, quand... Quand vous contrariez une de vos tendances un peu liées au péché originel, qui vous ferait je reste campé sur ma position, je passe, et là, alors là, vous marquez vraiment des points sur le compteur de l'amour. Hein, c'est votre trésor au ciel qui s'augmente, ça peut être un stimulant pour. Donc accomplir les désirs dans la mesure du possible, les façons d'être agréables aussi, donc très important dans la vie conjugale, hein, d'aimer c'est la bonne humeur, hein, la bonne humeur, le sourire, la jovialité. Et parfois, on a des tempéraments un peu tristes, un peu éteints, un peu taciturnes. Et bien, si on aime son conjoint et qu'on sait, ce qui est assez compréhensible, qu'il est sensible à notre bonne humeur, eh bien, on va faire un grand sourire alors qu'on rentre fatigué, par exemple, du travail, qu'on aurait surtout envie de faire la tête, de se mettre au lit ou de se scotcher devant son écran. Eh bien, on dit, Seigneur, voilà, j'ai une super occasion de faire un acte d'amour en étant jovial. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, champion, médaille d'or de l'amour, hein, de la charité, ses sœurs au procès de canonisation disent qu'elle avait toujours le sourire aux lèvres. C'était une de ses caractéristiques, c'est la sœur sourire. Hein. Et quand on lit sa vie, on se rend compte qu'elle avait de très très bonnes raisons de ne pas sourire. Hein. Elle avait d'énormes épreuves, hein, intérieures. Hein. Bon, puis même pendant sa maladie, où elle a été vraiment, on peut dire, torturée, hein, quand elle comprend que le Seigneur lui a accordé la grâce qu'elle demandait depuis sa jeunesse du martyr, eh bien, quand on lit ce qu'a été sa dernière maladie, on dit oui, elle a été exaucée, hein, vraiment bien exaucée. C'est inimaginable ce qu'elle a enduré. Eh bien, même durant cette maladie, elle s'efforçait de faire des plaisanteries, hein, d'être joviale auprès de ses sœurs pour les consoler de cette situation dramatique dans laquelle elle se trouvait et qui faisait souffrir tout le monde. Vous voyez, donc là on a vraiment un exemple de cette charité Petite parenthèse qui est trompeur avec Sainte Thérèse, c'est que sur les photos qu'on a d'elle, elle est toujours assez grave. Mais en fait, il y a une raison technique toute simple qui explique la chose, hein, et d'ailleurs, elles l'ont bien expliqué aux, les sœurs au procès de béatification, c'est qu'à l'époque, l'appareil photo mettait 10 secondes pour faire la pose. Et donc, si vous aviez un sourire pendant 10 secondes, vous aviez l'air complètement crispé, donc il ne fallait surtout pas sourire sur les photos, donc c'est pour ça qu'elle est sérieuse sur les photos. Hein, mais ce n'est absolument pas le vrai reflet de son visage, elle était dans la vie réelle, toujours joyeuse, toujours joyeuse. C'était pas, hein, on parlait tout à l'heure de l'amour sensible, elle ne ressentait pas forcément cette joie, mais c'était un amour, je dirais, volontaire, hein, avec cette jovialité qu'elle manifestait pour, je dirais, ensoleiller son environnement. Nous devons devenir des soleils d'amour, hein, par justement ces actes tout bêtes, tout concrets, tout simples, que nous pouvons poser tout au long de nos journées et qui vont avoir un rayonnement, qui vont changer la vie. Et voyez-vous, ces petits actes d'amour tout bête que nous faisons, tout simple, quand nous les faisons, alors plus ou moins consciemment, mais quand nous les faisons, ils ont aussi des répercussions énormes sur le monde entier. C'est pas seulement pour la joie de votre famille, le bonheur de votre famille, ou pour la joie de votre conjoint, mais c'est aussi pour l'ensemble du monde entier, hein. Élisabeth Le Sœur, dont je vous parlerai, disait une sentence bien connue, hein, « Toute âme qui s'élève, élève le monde ». Et c'est très vrai. Lorsque le moindre petit acte d'amour que vous faites, c'est un, je dirais, alors la comparaison est un peu pas très heureuse, mais c'est un tsunami d'amour, hein, qui une vague d'amour puissante qui se répercute sur toute la société, sur tout notre monde. Hein, et c'est comme ça qu'on combat le mal. On se désespère beaucoup à notre époque. Il y a juste titre des malheurs du monde. Il y a beaucoup de choses affligeantes dans la société moderne, voilà, les guerres, et même dans l'Église actuellement, c'est pas spécialement brillant, mais vous voyez, alors, plutôt que de passer son temps à ruminer ces misères, eh bien, le principal moyen que nous avons de lutter contre le mal, c'est de faire le bien. Et le moindre petit acte d'amour, voilà, mon devoir d'état bien fait, fait avec amour, offert, hein, telle épreuve offerte avec amour, eh bien, tout cela, c'est un véritable trésor, ça a des conséquences, je dirais, cosmologiques que vous ne soupçonnez pas, hein, mais qui sont bien réels et que vous verrez lorsque vous viendrez au ciel, hein, tous les fruits qu'auront porté ces petits riens qui ont ponctué vos journées et que vous avez, sur lesquels vous avez sauté ces occasions de pratiquer l'amour donc dans votre famille. Alors concrètement, quelques exemples concrets, hein, donc voilà, savoir avoir les gestes, les attitudes aimantes vis-à-vis de son conjoint. Prendre des nouvelles lorsqu'on est séparé, c'est aussi voilà une façon de montrer cette délicatesse, un petit coup de fil. Prendre le temps de se parler, très important, on y reviendra. Les paroles encourageantes dans les relations, beaucoup de délicatesse, hein. Suggérer plus que de commander, hein, on n'est pas le sergent majeur de son conjoint. C'est une chose qui est assez néfaste, hein, dans les relations familiales, une attitude dure, une attitude autoritaire, se respecter, ne pas imposer ses goûts aussi, c'est une façon voilà de montrer toute notre délicatesse, étouffer dans l'œuf les situations sources de discorde. Alors on sait que quand on aborde tel et tel sujet, eh bien ça provoque l'ire de son conjoint, eh bien on tâche d'éviter ce sujet, ne pas étaler, ça va de soi, les défauts de l'autre, spécialement en public, hein. J'ai un souvenir un peu douloureux comme ça d'un repas où madame tirait à boulet rouge sur monsieur, hein, devant tout le monde. Donc c'est évidemment tout à fait le genre d'attitude à exclure. Les félicitations opportunes, très important ça, hein, savoir flatter, souligner une belle toilette, un bon repas, une remarque judicieuse, respecter l'opinion de l'autre, ne pas crier, s'irriter, ça aussi c'est quelque chose qui est très très néfaste, hein, les colères dans nos couples, dans nos vies familiales, notre irascibilité non maîtrisée qui est extrêmement destructrice. Dans un cabaret, il y avait un écriteau disant « N'engueulez pas le patron, la patronne s'en charge, hein ». Donc c'est vrai que dans certaines familles, c'est un peu ça, hein. Alors c'est parfois la patronne, parfois c'est le patron, hein, mais c'est mortel, en fait, hein. Et ça, c'est un tue-l'amour qu'il s'agit vraiment de bannir de nos vivités. Revenir aussi sur les échecs. Vous voyez, il y a des gens qui ruminent sans cesse, qui remettent sur le tapis. Bon, dans la vie, on peut faire des bourdes, on peut faire des impairs, avoir des échecs, hein, et savoir passer par-dessus. Et puis la bienveillance, fondamentalement, Voilà, donc le mariage est une école de l'amour dans laquelle on est sans cesse mis en instance d'exercer cet amour, et la vie quotidienne vous fournit une multitude d'occasions d'exercer ces petits actes d'amour. Et voyez-vous, ces petits actes d'amour, c'est comme des diamants que la Providence place sur votre chemin pour que vous daigniez vous baisser pour les ramasser, hein, et les collecter. Cette image, c'est une image que prenait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Hein, elle disait, dans la vie, on peut ramasser les diamants au râteau, hein, tellement il y a d'occasions de saisir. Alors, il faut demander à l'Esprit Saint de nous faire voir ces diamants, parce que souvent, on est un petit peu muré dans notre quotidien, dans nos préoccupations, et on passe par-dessus ces diamants, voilà. Mais de temps en temps, pof, il y a une petite lumière qui s'allume, tiens, là j'ai l'occasion de faire un petit acte d'amour, eh bien il faut sauter sur cette occasion pour exercer cette charité. Alors, voilà, ça ce sont quelques considérations pratiques, je dirais générales, sur la façon dont on exerce l'amour dans la vie conjugale. Nous allons maintenant voir, entrer encore un peu plus dans les détails sur les différentes composantes de l'amour conjugal. Vous l'avez appris certainement lors de votre préparation au mariage, il y a quatre composantes essentielles de l'amour conjugal, hein. Une dimension physique, une dimension sensible, une dimension spirituelle et une dimension surnaturelle. Et donc on va les examiner, ces différentes composantes, car si ces quatre composantes sont un peu comme les quatre pieds d'une table. Si jamais un pied manque à une table, eh bien la table est instable, elle peut choir. Et bien de même, dans notre amour conjugal, si une de ces dimensions, qui sont profondément unies, on le verra, hein, manque, eh bien il y a un déséquilibre qui peut se faire dans notre vie familiale, dans notre vie conjugale. Donc nous commençons, nous les prenons dans l'ordre. La première, la dimension physique, hein, de l'amour conjugal, est fondamentalement ordonnée, comme je l'ai rappelé au moment de la définition, à la procréation, à engendrer donc une postérité, et l'acte de cette transmission, donc l'acte conjugal, est une dimension essentielle de la vie conjugale. C'est une dimension importante qui n'est pas à négliger. Parfois on peut avoir une spiritualité un peu désincarnée, un peu platonicienne, où ce n'est pas du tout la vérité, ce n'est pas du tout la vérité, hein. L'amour chrétien a aussi cette dimension corporelle qui est tout à fait importante, et l'expérience montre qu'un certain nombre de difficultés dans des familles viennent justement d'un trouble de ce côté-là. Alors on peut avoir des bonnes raisons de s'abstenir des unions conjugales, hein, voilà, une maladie, un risque pour la vie de la mère, de l'enfant, une paternité responsable tout simplement, mais par exemple le fait de ne pas avoir envie d'union parce qu'on n'a pas d'appétit, ce n'est pas une raison suffisante. Vous aviez comme ça, c'était un cas un peu dramatique, d'un couple catholique, pratiquants, traditionnalistes, ils avaient toutes les médailles si vous voulez, hein, mais 40 ans, madame n'a plus du tout d'appétit charnel. Donc terminé, bar et machine. Ben, monsieur qui avait quand même lui encore un petit peu d'appétit, il a été voir ailleurs, hein, et ce couple s'est séparé à l'heure actuelle. Vous voyez, donc c'est des choses qui sont importantes, hein, qui peuvent avoir des conséquences graves. Ça fait vraiment partie du mariage. Et les époux Martin qui sont saints, vous savez qu'ils ont commencé de façon justement pas tout à fait correcte, hein, dans leur mariage, au niveau des relations, puisque quand ils se sont mariés, alors je vous l'ai dit, c'était tous les deux, ils voulaient être religieux, donc ils avaient des fortes aspirations mystiques, et ce qui est assez étonnant, c'est que le jour de son mariage, le 13 juillet 1800, je ne sais plus combien, Zélie ne fait que pleurer. Pourquoi pleure-t-elle? Pour deux choses, pour deux raisons. D'abord, elle comprend qu'elle ne sera pas jamais religieuse. Bon, ouais, voilà, elle fait le choix du mariage, très bien. Hein. Et deuxième, on vient de lui expliquer comment se passait la génération. Et elle a été horrifiée, elle n'en avait aucune idée. Elle pensait que c'était encore l'histoire de cigogne, hein, vous voyez. Donc, monsieur, voyant le trouble de madame, en mariement, lui dit, bah, écoute, c'est très simple, on va vivre comme frères et sœurs. Ce qu'ils ont commencé à faire pendant 10 mois. Et au bout de 10 mois, le confesseur se dit, mais dites donc, comment ça se fait, là, qu'il n'y ait pas d'enfant? Et très simplement, lui, à vous, ben, on a décidé de vivre comme frères et sœurs. Alors là, le confesseur, heureusement, dit, bah, écoutez, non, c'est pas le but du mariage, hein, on se marie aussi pour avoir des enfants, donc il s'agit de... voilà. Et bah, grâce au confesseur, hein, nous avons eu une postérité spirituelle extraordinaire avec Sainte Thérèse, Léonie Martin, etc. Donc voilà, on peut faire fausse route sur cette question-là, la dimension La physique de l'amour contribue effectivement à fortifier l'amour mutuel. Il est important que les époux s'occupent délicatement et avec attention de leur conjoint. Donc voilà, une dimension qui a tout à fait son importance. Ne pas avoir une attitude d'ennui, de passivité morose durant les unions, mais ou chercher uniquement son plaisir personnel sans se soucier de l'autre. Ce sont voilà, des choses, des façons qui peuvent être blessantes de vivre cette dimension-là. Donc, eh bien, voilà, ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est la dimension sensible. On a donc en première partie fait cette distinction fondamentale entre l'amour sensible et l'amour spirituel. On a bien vu que l'amour sensible, sentimental, n'était pas essentiel, n'est pas premier, mais il est néanmoins important. Et un mariage où on ne cultiverait pas, où on ne cherche pas à entretenir cet amour sensible, justement à travers les délicatesses, à travers un certain nombre de choses, eh bien, est un amour menacé. Ça fait partie vraiment, je dirais, de la logique de l'amour conjugal, de faire ce qui dépend de nous pour entretenir cet amour. Je vous donne un exemple tout simple. On a, monsieur et madame sont mariés depuis 25 ans, et monsieur est toujours autant amoureux de madame. Et quand elle descend le matin bien parée, monsieur siffle comme un dandy italien en disant, vous savez comme on fait quand il y a une jolie femme qui passe, « Chérie, tu es magnifique, si tu n'étais pas mariée, bien je te ferai la cour et je t'épouserai. » Voilà, belle. Et madame, alors, elle est aux anges. C'est des trucs tout bêtes, vous voyez, des petites choses toutes simples qui permettent d'entretenir l'amour. Donc, eh bien, trouvez chacun dans votre registre ce qui peut faire plaisir à monsieur ou à madame pour cultiver cette dimension. Les femmes sont particulièrement attentives à cette dimension sentimentale. Les hommes le sont moins. Les hommes sont plus gérés souvent dans le concret. Il faut que ce soit du palpable, du fort. Les actes sont posés, donc c'est évident. On aime. Maintenant, il faut savoir aussi parler. Madame a besoin d'entendre, même si elle le sait. Il ne faut pas se lasser de répéter « je t'aime ». C'est comme avec le bon Dieu, d'ailleurs. Voilà, tu sais bien, Serge, oui, mais je vous le redis quand même. Et avec son épouse, c'est pareil, il ne faut pas se lasser de redire notre amour l'un pour l'autre. Donc, voilà, je n'insiste pas sur cette deuxième dimension. Troisième dimension importante, plus fondamentale encore, cette dimension volontaire, vouloir faire le bien de l'autre. Alors, une des conditions essentielles pour que cet amour puisse être vécu, c'est ce qu'on appelle la maturité humaine, la maturité affective. Le père Yannick Bonnet, qui est un prêtre assez original puisqu'il était père de 11 enfants, en fait, donc il était un polytechnicien très brillant, qui a été directeur de grandes écoles, etc., très versé sur les questions d'éducation. Et en fait, sa femme est tombée malade et il a été à Lourdes pour demander sa guérison avec elle. Et devant la grotte de Lourdes, il a l'appel à suivre le bon Dieu. Donc il dit ça à son épouse, qui est toute contente de savoir qu'une fois morte, eh bien son mari sera prêtre. Il est devenu prêtre. Alors c'est un homme vraiment d'expérience, et notamment sur les questions comme il était très fort. Et là, il disait qu'il était moins inquiet lorsqu'il voyait un couple qui arrivait à préparer au mariage avec un des conjoints, donc préparer au mariage catholique bien sûr, un des conjoints qui n'avait pas la foi, mais qui avait une solide maturité humaine, plutôt qu'un couple où il y avait les deux avaient la foi, mais où l'un ou les deux étaient assez immatures. Parce que, en fait, pour pouvoir vivre ce qui est, on va dire, quand même un des fondements du mariage, c'est-à-dire cet amour spirituel, il est indispensable et primordial d'avoir une profonde maturité humaine qui est le fruit d'abord d'une bonne éducation et puis aussi parfois d'une nature, je dirais, on est plus ou moins marqué par le péché originel, c'est comme ça. Eh bien, il y a des gens qui ont des dispositions voilà, qui sont plus facilement matures. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Je vais illustrer concrètement cet amour spirituel par l'exemple d'un couple un peu bancal, mais qui a très bien réussi quand même dans le mariage, qui est passé à travers de grandes épreuves, c'est Félix et Elisabeth Le Sœur, qui sont, voilà, donc humainement, ce sont deux très bonnes pattes. C'est pas seulement le fruit d'un caractère heureux, mais aussi le résultat d'une excellente éducation. Donc l'œuvre de la famille, c'est l'éducation des enfants. C'est vraiment une des œuvres principales. Ils ont tous les deux grandi dans des familles nombreuses, où il y avait un vrai amour dans la famille. Ça aussi, c'est, vous voyez, les plantes, pour devenir belles, elles ont besoin d'avoir du soleil. Eh bien, le soleil de la famille, pour les enfants, c'est l'amour des parents. Des parents aimants, ça n'empêche pas qu'ils peuvent être, qui disent des choses et qui reviendra sur cette question de l'amour des parents pour leurs enfants, hein, mais si vous voulez que vos enfants soient beaux, soit des belles plantes, eh bien, il faut que vous vous aimiez. Hein, c'est aussi une autre bonne raison pour eh bien savoir prendre sur soi, pour vaincre son égoïsme, pour vaincre son orgueil, hein, pour exercer cet amour. C'est pas seulement pour moi et pour mon conjoint, mais c'est aussi pour mes enfants. Hein, donc vraiment avoir cette disposition. Donc ils ont vraiment vécu dans un milieu choisi. Dès le plus jeune âge, on leur a appris à rendre service, très important, hein, qui décentre l'enfant. L'enfant, quand il naît, il est centre du monde. Hein. Tout doit graviter autour de lui, c'est comme ça, c'est la psychologie de l'enfant. Et justement, toute l'œuvre d'éducation, c'est de lui apprendre qu'il n'est pas seul, hein, qu'il y a des autres, qu'il faut les respecter, qu'il faut leur rendre service, qu'il faut aimer en quelque sorte, hein, donc se décentrer, s'oublier pour les autres, savoir polir son caractère. Et Elisabeth, notamment, note dans son journal d'enfance qu'elle aime bien prendre le contre-pied de ce qui est dit. Hein, elle a l'esprit de contradiction. C'est un signe d'immaturité, l'esprit de contradiction notamment. Et donc, très consciemment, elle a 7-8 ans, notamment, elle prend systématiquement le contre-pied de son frère Pierre. Hein, et elle dit, eh bien, je vais faire attention à ne pas, entrer dans cette logique de contradiction. Au contraire, à savoir mettre pavillon bas lorsqu'on demande quelque chose, ne pas toujours chercher à trouver une autre solution, à montrer que j'ai raison, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment et ça, c'est le fruit de son éducation. On lui apprend à polir son caractère. Hein, et voilà. Donc, ils ont vraiment une profonde maturité humaine qui va leur permettre de vivre un très grand amour spirituel. Je précise bien un amour spirituel, mais pas un amour surnaturel, en tout cas du côté de Félix, puisque comme vous le savez, j'ai dit que c'était un mariage boiteux. En fait, Félix, qui avait été éduqué dans une bonne famille catholique à Reims, avait perdu la foi durant son adolescence. Hein, il le dit, il a eu des passions, comme ça arrive souvent pour les adolescents. Et à force de ne pas vivre comme il croyait, il a fini par croire comme il vivait, hein, c'est-à-dire en païen. En plus, il a eu deuxième couche d'athéisme, il a fait des études de médecine, il a eu des professeurs très brillants qui étaient athées comme des pierres et qui ont eu une aura sur lui, une emprise, enfin une autorité, enfin un rayonnement un peu sombre, hein, c'est le rayonnement du trou noir qui l'a entraîné du côté de l'athéisme. Et donc il avoue ça la veille du mariage à son épouse, qui est quand même pas tout à fait correct, hein, qui n'a pas la foi. Et donc c'est son amour, et pourtant il va vraiment aimer son épouse, vous allez voir. Donc voyez-vous, ça permet de bien distinguer les plans, hein. On peut avoir un vrai amour humain, un amour oblatif, hein, qui va forcément être un peu déficient quelque part, parce que la nature ne trouve son plein épanouissement que dans la grâce, qui est donné par l'amour surnaturel, mais on peut déjà atteindre un certain niveau d'amour que Félix va atteindre vis-à-vis de son épouse. Donc cet amour est très fort, hein, profond, authentique entre Félix et Elisabeth. Elisabeth écrit dans son fameux journal « L'union des cœurs est parfaite entre nous ». Et évidemment, elle aspire à ce que l'union des âmes soit parfaite avec la conversion de Félix. Notons relevons ce que Elisabeth note encore dans son journal, me donner, qui est vraiment, je dirais, emblématique de cette dimension de l'amour spirituel, me donner généreusement, ne pas calculer, ni attendre en retour de ce don la moindre récompense, la plus légère satisfaction, ne pas désirer l'affection, l'estime, la sympathie. Donc un amour gratuit qui se donne, hein, qui est capable, comme l'amour authentique, eh bien, de prendre sa croix, d'endurer des choses pénibles pour le bien de celui qu'on aime, en l'occurrence Félix. Félix, de son côté, note cette bienveillance, cet amour de son épouse. Je le cite, « J'étais bibliophile, elle le fut avec moi et pour moi, favorisant ma passion de collectionner. J'aimais les voyages, elle était toujours prête à m'accompagner. J'aimais le théâtre musical principalement et les concerts, elle y venait avec plaisir. J'aimais recevoir, elle m'y aidait dans la perfection. J'aimais le monde et elle m'y suivait et elle m'y faisait grand honneur. En un mot, toujours et en tout, Elisabeth ajustait son existence au rythme de la mienne, réconfortante et dévouée aux jours d'épreuve et de tristesse, souriante et pleine d'entrain dans les moments heureux. Je ne saurais assez reconnaître tout ce que je lui dois. » On voit cet amour encore d'Elisabeth pour Félix, à la délicatesse avec laquelle elle évite les sujets qui lui sont désagréables. Hein, Félix avait été donc souvent comme les athées, les apostats, hein, c'était un apostat, appelons les choses par leur nom, s'était extrêmement renseigné, notamment en lisant toutes les œuvres des modernistes de son époque, les Loisy et compagnie, hein, pour détruire la religion, et il ne supportait pas les conversations religieuses. Et bien son épouse, qui pourtant a grand désir de lui parler du Seigneur, de le ramener à Dieu, va éviter soigneusement ces sujets qui fâchent. Le père Hébert, donc dominicain, qui a été le père spirituel d'Élisabeth, disait « Jamais femme n'a moins importuné son mari, ne l'a moins pressé de penser comme elle, encore que ce ne fût son rêve le plus continu et le plus ardent. » Voilà, donc cet amour, comment il se concrétise, comment il se vit, hein, il fait bonne figure même lorsqu'elle est malade, un peu comme Sainte Thérèse vis-à-vis de son épouse, de son époux. Elle s'efforce par tous les moyens de faire plaisir à Félix, hein, la décoration intérieure à laquelle il était très sensible, et elle soigne bien la table. Et Félix, bon, avait bonne fourchette, et puis c'était un gourmet. Hein, voilà. Bon, après, il va faire pénitence. Hein, Félix, il va rentrer chez les Dominicains à 50 ans, à l'époque où ça rigolait pas, hein, chez les Dominicains, c'était le lever de nuit, le grand carême qui commençait le 14 septembre avec un seul repas par jour, tout ça, donc c'était sérieux. Hein, et d'ailleurs, tous les Dominicains disaient, mais non, mais attendez, vous allez pas tenir, vu la vie que vous avez menée, à 50 ans, vous plus s'adapter à une règle pareille. Et ben, il a tenu jusqu'à 80 ans passés. Hein, et donc, il a bien rattrapé ses égards de jeunesse, hein, il a fait pénitence. Voilà, elle échangeait, elle parlait beaucoup avec Félix. Élisabeth, c'est une femme extrêmement intelligente, hein, très, très douée. D'ailleurs, vous savez, alors, c'est assez intéressant de voir ce couple. Félix l'épouse en lui assurant qu'il respectera sa foi. Hein. Mais Félix, c'est un homme qui se dit, qui aime son épouse et qui se dit, il ne faut pas la laisser dans la mythologie et dans l'illusion, hein, cette foi qui ne signifie rien. Donc il tâche, mine de rien, de lui faire part de la foi. Alors comment il s'y prend ? Ben, c'est très simple. Il va la faire sortir tous les soirs, il se couche à pas d'heure, donc elle abandonne l'oraison, elle abandonne la prière. Et puis, il lui fait rencontrer que des gens extrêmement brillants qui sont, comme lui, tout à fait acquis aux idées libérales. Hein, et donc, elle est vraiment ébranlée. Après 10 ans de mariage, elle ne pratique plus. Hein, on peut dire qu'elle a perdu l'état de grâce. Hein, là, et elle est vraiment... Voilà, Félix constate avec bonheur que lorsqu'ils sont à Carthage, qui est un haut lieu chrétien, elle ne montre aucun intérêt particulier pour tout ce patrimoine chrétien. Hein. Et un jour, donc, elle était bibliophile elle aussi, elle lisait beaucoup, Élisabeth lui demande un livre, un livre. Et alors, très malicieusement, hein, il va chercher dans sa bibliothèque le livre de Renan. L'histoire de Jésus, donc, qui a fait perdre la foi à des milliers de personnes, en ayant bien l'idée que ce sera le coup de grâce, si je puis dire, enfin une grâce évidemment inversée, hein, pour la foi d'Élisabeth. Parce qu'elle a toujours la foi, bien, on peut être en état de péché mortel, mais on conserve cette foi tant qu'on n'a pas explicitement rejeté le Christ, hein, ou une vérité de foi. Et alors Élisabeth, qui est une femme très intelligente, lit la prose de Renan, et en fait, au fur et à mesure qu'elle lit, on ne lui en comptait pas. Hein. Elle voit immédiatement, elle discerne immédiatement les sophismes, les erreurs grossières, et elle ne se laisse pas éblouir par la magie du style de Renan, qui est effectivement une plume assez extraordinaire. Hein, et elle dit, c'est avec ça qu'on perd la foi. Elle a refermé le livre, et ça a eu exactement l'effet inverse. À partir de là, sa foi qui s'était délitée pendant ses 10 premières années de mariage, eh bien, va reprendre une intensité extraordinaire. Elle va avoir une grâce mystique, hein, Saint-Pierre, une grâce de cette présence de Dieu dans son âme, hein, qui va l'amener. Alors le procès de béatification est en cours, il a été repris après une période d'interruption, hein, et elle sera, j'espère, un jour portée sur les autels. Voilà, donc vous voyez, ça a finalement bien fini, bien que c'est famille très mal tournée, hein, cette affaire-là. Et donc, Félix, hein, veut le bien, il le voit mal. Vous voyez, le problème, c'est que quand on n'est pas avec Dieu, on voit mal le vrai bien. Hein, et donc, on peut penser bien quelque chose qui est mal, en l'occurrence. Il voulait déniaiser son épouse en l'ouvrant les yeux, en l'éclairant, hein, à la façon un peu franc-maçonne, l'illumination, eh bien, c'était peine ratée. Certains disent que Félix était franc-maçon, je ne le crois pas. Hein, mais en tout cas, il était hyper anticlérical, il était directeur d'un journal qui était un peu l'équivalent du monde de l'époque, il naviguait que dans un milieu où on bouffait du curé, comme on dit couramment à cette époque-là, à tous les repas, hein, donc voilà, il avait cette hostilité, mais Élisabeth a su éviter, voilà, et puis Voilà, elle trouve, alors je reprends un petit peu le fil de ce que je disais, parce que je fais souvent des digressions, c'est un de mes défauts, mais c'est pas grave. Voilà, elle fait bonne figure quand elle est mariée. Elle s'efforce par tous les moyens de faire plaisir à son mari, voilà, elle est pleine d'admiration pour Félix. Ah oui, ça c'est aussi un besoin. Vous voyez, les hommes, ils ont besoin, je vous le dis, madame, ils ont besoin d'être admirés. Hein, c'est un besoin fondamental de l'homme. La femme, elle a besoin de sécurité, hein, donc elle a besoin que l'homme ait les épaules larges, qu'il assume, qu'il porte ses responsabilités, qu'il ne soit pas une mauviette, hein, qu'il ne soit pas, voilà, autant que possible. Alors après, on peut avoir un mari qui est plus ou moins, je dirais, voilà, qui correspond plus ou moins au modèle qu'on attend d'un homme, mais c'est important qu'il soit sécurisant, hein, qu'il écoute, qu'il soit attentif, qu'il cajole, qu'il entoure. Et si la femme est sécurisée, se sent enveloppée, aimée, eh bien elle donnera le meilleur d'elle-même. Et pareil, l'homme, il a besoin que son épouse l'admire. Alors, ce en quoi il est admirable, et bon, tous les hommes ne sont pas admirables à 100%, mais en tout cas, savoir admirer, l'homme en a besoin. Et si madame, comme la patronne du cabaret, ne cesse de taper à bras raccourcis ce monsieur, eh bien monsieur va être tout déconfit, hein. Il ne tiendra pas sa place, et le couple bien flanche. Hein, pour qu'un couple marche bien, il faut que chacun tienne son rôle à plein. Hein, monsieur admiré par madame, madame sécurisée par monsieur, et ça fait voilà, cette complémentarité qui permet de donner au couple ce rayonnement. Donc, il y aurait eu de multiples occasions de disputes entre Élisabeth et Félix, hein, vu leurs différences d'opinion religieuse, et pourtant, on a enregistré dans toute leur vie conjugale qu'une seule dispute. Hein, c'est quand même pas mal. Je pense qu'il y a peu de couples catholiques qui peuvent arriver à un tel palmarès en fin de vie conjugale. Une seule dispute qui a été violente, hein, mais liée à la religion. Donc, Félix avait un ami qui avait épousé une divorcée. Et donc Félix veut bien sûr inviter ce couple, faux couple, à table. Et là, Élisabeth, qui était extrêmement tolérante, hein, c'est une de caractéristiques à son époque, on était début du XXe siècle, on pouvait avoir une certaine raideur, hein, mais elle, c'est pas du tout son cas. Elle accueillait tout le monde avec bienveillance, mais hors de question, par contre, ça c'était une question de principe, d'avaliser un adultère, hein. Et donc elle refuse tout simplement de recevoir ce couple. Félix prend très mal la chose, il veut partir dans une violente colère. Élisabeth tient ferme. Ils vont rapidement se réconcilier, hein, mais seule dispute connue et rapportée par Félix après la mort d'Élisabeth qu'ils ont eu entre eux. Donc c'est pour vous dire que voilà, il y avait vraiment cet amour qui fait éviter les sujets qui fâchent et qui voilà. Élisabeth avait alors éclairé par la foi le vrai souci du bien de son mari, c'est-à-dire sa conversion. Hein, elle a beaucoup souffert, Élisabeth, dans sa vie. Hein, c'est la caractéristique de tous les saints. Plus vous êtes saint, plus vous avez de croix. Bon, ce qui refroidit certains par rapport à la sainteté, mais c'est la fameuse parole de sainte Thérèse d'Avila à Jésus, qui est donc là, plein d'épreuves. Elle dit Seigneur, et Jésus lui dit voilà comment je traite mes amis. Et sainte Thérèse lui dit c'est pas étonnant que vous en ayez aussi peu des amis, Seigneur, parce que voilà, c'est rude. Hein. Mais quand on est saisi par la grâce, eh bien, on se réjouit spirituellement, bien sûr, hein, de ces épreuves. Très frappant de voir la réaction de sainte Thérèse de l'enfant Jésus, cette fois-ci, à l'épreuve qui a été peut-être la plus douloureuse dans sa vie, la maladie mentale de son père, ce père qu'elle chérissait. Hein. Et en plus, à Lisieux, on jase. Pourquoi monsieur Martin perd-il la tête? Eh bien parce que sa petite chérie de fille est partie au Carmel. Donc on fait porter la responsabilité sur Thérèse. Bon. Eh bien, quelle est la réaction de Thérèse? On la lit dans ses lettres qu'elle écrit à Céline. Combien le Seigneur doit nous aimer pour permettre une telle épreuve? C'est une véritable mine d'or à exploiter. Céline, ne nous laissons pas emporter par le mal, ne nous laissons pas dominer par lui. Offrons, hein, en union avec Jésus. C'est parce qu'il a soif des âmes, il veut sauver des âmes, qu'il demande, qu'il nous mendie cette épreuve et cet amour. Hein. Donc, Élisabeth, le sœur, dès son voyage de noces, elle est malade. Elle sait d'emblée qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant, elle a une maladie au niveau du ventre. Elle souffre quasiment tous les jours de sa vie, jusqu'à la dernière maladie qui sera un véritable calvaire là aussi. Eh bien, elle offre toutes ses souffrances, hein, en union avec Jésus, en tout cas, surtout à partir de sa deuxième conversion, pour la conversion de son mari. Alors on voit l'amour de Félix aussi, vous voyez, c'est aussi un bon indicateur de l'amour humain de Félix. Félix, dès sa plus tendre enfance, il avait un rêve, c'était d'aller vivre dans les colonies. Il était fasciné par le monde colonial, c'était son rêve d'enfance, et précisément après son mariage, tout de suite après son mariage, avec les maladies d'Elisabeth, il comprend qu'il lui est impossible de partir dans les colonies. Eh bien, il fait une croix sur la passion de toute sa vie. Hein. J'aime, donc je renonce éventuellement à quelque chose qui m'aurait énormément plu, mais qui n'est plus possible, qui n'est pas bon pour mon épouse, donc j'y renonce. Il doit être capable même de faire des sacrifices religieux. En 91, donc 2 ans après leur mariage, ils vont à La Baule, station balnéaire bien appréciée par les Parisiens à l'époque, et ils proposent à Elisabeth d'aller prendre part au grand pardon à Sainte-Anne-d'Auray, qui est non loin de là, le 26 juillet, hein, ce qui pour lui, alors il va se retrouver au milieu de Bretons chantant à tue-tête, Sainte-Anne, patronne des... c'est pas du tout son style, mais il sait que ça fait plaisir à son épouse, et donc il y va. Hein, et il lui propose, elle est ravie, évidemment. Hein. Donc, vous voyez, c'est... Voilà, on aime, on est capable de prendre sur soi, de faire des choses qui ne sont pas forcément très agréables pour nous. Hein. Donc on a ce bel exemple de cet amour spirituel. Et vous savez que, donc, durant la dernière maladie, Félix va se multiplier au chevet d'Elisabeth, et quand elle va mourir, il en perdra quasiment la tête. Hein, c'est vraiment qu'il était, attaché de toutes les fibres de son cœur, hein, de son âme, à sa chère Elisabeth. Il allait tous les jours sur la tombe de sa femme pour pleurer son épouse. Et un de ses amis dit, écoute, si tu continues comme ça, Félix, tu vas devenir malade. Et donc, et effectivement, il dépérissait. Et donc, son ami, pour lui changer les idées, on est en 1914, lui propose, avant la déclaration de la guerre, lui propose d'aller faire le Tour de France en automobile. Et ce qu'ils vont faire, et c'est là qu'Elisabeth, je dirais, du haut du ciel, ah oui, alors avant de mourir, elle lui avait dit, Félix, un jour on t'appellera le père, le sœur. Alors quand elle avait entendu ça, elle délirait, hein, parfois avec la maladie, la fièvre, tout ça, elle dit, bon, elle délire, c'est pas grave. Hein, et donc c'est la fin de l'histoire est belle, parce que, bon, ce couple, voilà, qui a été très éprouvé du fait de cette différence, ce couple bancal, hein, quand il y en a un qui n'a pas la foi, c'est quand même une source de grande souffrance dans un couple, eh bien, c'est au cours de ce périple, hein, en France, aux alentours d'Uzèche, hein, donc ils sont sur la future nationale 20 là, qui descend vers Toulouse, et à proximité d'Uzèche, il y a dans la voiture, hein, Félix sans la présence de sa femme, hein, elle est là, c'est une évidence, elle est vivante, et là il se dit mais son âme existe, mais c'est donc que l'âme est immortelle, c'est donc que Dieu existe, hein, et voilà, il va avoir plusieurs grâces comme ça très fortes où Elisabeth se fait sentir à Paray le Monial. Quand il remonte, il passe par Paray le Monial, même chose, puis alors quand il arrive à Paris, il se dit bon, c'est l'émotion, j'ai mal compris, hein, et puis il va avoir le coup de grâce définitif en allant à Lourdes, hein, la grâce de conversion complète, hein, il va revenir vraiment au Seigneur, et donc il va entrer chez les Dominicains, voilà, et la prophétie d'Elisabeth s'est réalisée, il est devenu le père Le Sœur, hein, d'ailleurs il s'est occupé de faire connaître, Elisabeth Le Sœur, elle a écrit ce fameux journal, c'est en lisant d'ailleurs aussi le journal de son épouse qu'il a été bouleversé, hein, en se rendant compte combien il l'avait fait souffrir aussi, à son insu, parce que c'est pas du tout ce qu'il voulait, mais voilà, en l'agressant, il l'agressait assez souvent sur ces questions de foi, hein, donc un bel exemple de cet amour spirituel, hein, qui nous fait prendre sur nous, qui nous fait vouloir le bien de l'autre, et alors plus ou moins éclairé pour Félix, mais très bien éclairé pour Elisabeth, hein, qui me fait vouloir. Et enfin, dernière dimension très importante, c'est la dimension surnaturelle, qui est la plus haute, hein. La grâce ne détruit pas la nature, mais la surélève. Notre amour conjugal ne sera vrai, ne sera profond, ne sera puissant que dans la mesure, hein, ultimement, sera parfait dans la mesure où ce sera un amour de charité. La charité, c'est vraiment Dieu qui infuse en notre âme son propre amour et qui nous donne d'aimer comme il aime. Un amour de don, un amour inconditionnel, qui est même capable d'aimer des choses absolument pas aimables. Hein. Voilà, donc ça c'est vraiment, la charité, en fait c'est Dieu qui aime en nous. Vous avez une belle parabole de cela dans la vie de Sainte Catherine de Sienne. Le Christ lui apparaît et lui implante, si je puis dire, son propre cœur, son sacré cœur, dans sa poitrine. Hein, et à partir de là, Catherine sent qu'elle aime avec le cœur de Jésus. Elle aime de l'amour même dont Dieu aime. Et c'est une expérience que les saints ont fait, que lorsqu'ils aimaient des choses qui n'étaient pas aimables, eh bien c'était Dieu qui aimait en eux. hein, parce que c'était au-dessus de leur force, au-dessus de leur nature. Vous voyez, Félix a beaucoup aimé naturellement son épouse, un amour spirituel très fort, mais il ne l'a pas aimé surnaturellement, de son vivant en tout cas, hein. Et par contre Élisabeth, elle a eu cette grâce d'aimer surnaturellement. Alors vous voyez, souvent dans notre vie familiale, c'est vrai, si nous ne sommes pas en état de grâce, ça coince, hein, c'est inévitable, parce que il y a des choses qui, voilà, des situations dans lesquelles, eh bien, nous n'avons pas cette, je dirais, ce secours divin pour aimer, pour passer au-dessus, pour porter notre croix, pour exercer de façon lucide et claire cette charité. Je termine cet exemple. Donc vous avez un autre exemple, alors beaucoup plus tragique que celui de Félix et Élisabeth le sœur, hein, mais qui finit bien aussi, celui de la bienheureuse Élisabeth, encore une autre, Elisabetta Canori Mora, donc une bienheureuse italienne, qui est née donc le 21 novembre 1774. Elle a épousé Cristoforo Mora, un avocat romain. Au début c'est l'idylle, hein, ça se passe très bien, mais Cristoforo, qui n'est pas très équilibré, voilà, qui est un peu instable, manque de maturité certainement, en fait assez rapidement, enfin plus ou moins rapidement, va se mettre à tromper son épouse. Elisabetta l'apprend, elle en souffre beaucoup, elle ne fait pas de reproches, hein. Voilà, malgré ça, tout en souffrant de cette trahison, elle continue de manifester sa tendresse envers son époux, pour tâcher de le reconquérir. Et l'épreuve est d'autant plus lourde qu'au moment où elle apprend cette trahison, elle a perdu quasiment coup sur coup deux enfants. Donc vous imaginez un peu les conditions d'une maman qui perd deux enfants et qui apprend que son mari l'en trompe. Elle reste, elle puise dans sa charité, hein, cet amour pour son mari, pour continuer à exercer l'amour envers lui. Les malheurs vont encore s'accroître, Cristoforo va faire de mauvais investissements, hein, des spéculations irréfléchies, il va endetter considérablement son couple, et Elisabeth, pour tâcher d'éponger la dette de son mari, va vendre tous ses bijoux, hein, ce qui était un véritable trésor pour elle, ses bijoux, pour tâcher, et son mari ne lui en est même pas reconnaissant, et au contraire il va la traiter avec dureté, avec mépris, hein, assez offensé dans son amour, dans son orgueil masculin, de sa mauvaise gestion, il va être tout à fait détestable avec son épouse, dur, hein, afin d'économiser, il quitte le logis familial pour aller vivre chez les beaux-parents, ce qui est une épreuve pour Elisabetta, parce que voilà, la belle famille, c'est pas toujours très simple, elle accepte cela aussi dans un esprit pour la conversion de son mari. Elle puise dans la prière, dans la réception des sacrements, hein, l'entretien de cette charité. Elle va tomber gravement malade, elle arrive aux portes de la mort, elle va être miraculeusement guérie de cette maladie. Et puis, après la mort de son beau-père, qui était le seul soutien dans sa belle famille, elle est chassée comme une malpropre de la maison de la belle famille, parce que ses belles-sœurs l'accablent de reproches, la tenant pour responsable des malheurs de son mari. Hein, et elle va vivre dans la misère la plus noire, à Rome, avec ses deux filles. Elle va avoir un rayonnement de charité, puis finalement elle va être malade, elle va mourir, hein, son mari viendra devant son cadavre, et c'est devant son cadavre qu'il réalise, en fait, que ses yeux s'ouvrent, qu'il réalise en fait tout le mal qu'il a fait, hein, qu'il se convertit, il va devenir franciscain lui, et même prêtre, et mort saintement le 8 septembre. Donc, vous voyez, cette charité qui a permis, alors c'est une vie familiale horrible, hein, je mettrai du bonheur en effet, et bien pourtant Elisabetta a été heureuse, hein. Elle a été heureuse parce qu'elle était avec Dieu, en fait, la seule personne qui peut réellement nous rendre heureux, c'est le Seigneur. Et même si on a un couple plus que bancal, hein, plus que boiteux, là, dans ce cas-là, eh bien, elle a été, malgré la croix, profondément heureuse. Hein. Donc, ce qui nous assure cette vie, cette paix, cette tranquillité de l'âme, c'est cette vie de charité qui va nous faire supporter des choses absolument hallucinantes. Hein. Les martyrs qui aiment leur bourreau, on se demande, mais comment c'est possible? Ben, humainement, c'est pas possible. Mais ce qui fait, alors votre mari ou votre conjoint n'est pas votre bourreau, hein, il ne vous flagelle pas, moi je l'espère, hein, il ne vous crucifie pas, il ne vous torture pas, hein, et bien les martyrs ont aimé ces personnes-là. Donc vous voyez, ça donne une puissance d'amour qui est totalement au-delà de la nature. la grâce et la charité. Donc c'est la dimension essentielle qui unifie tout le reste des composantes, hein, qui va eh bien ordonner l'amour physique, qui va rectifier l'amour charnel, l'amour sensible, qui va élever l'amour spirituel et l'éclairer.